France Musique.
France Musique, le casque et l'enclume, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Casque et l'Enclume, votre séance critique en podcast uniquement sur le site de France Musique. Avec moi aujourd'hui Pierre Flinois de Classica et Richard Marté d'Opéra Magazine qui ont vu pour nous en parler ou qui ont vu peut-être pour le plaisir. Enfin, la tête de Richard, ça n'a pas l'air d'être un très grand plaisir. Une œuvre à la fois mythique et presque plus jamais donnée, mais un fondamental de l'histoire de l'opéra français, j'ai nommé L'Africaine de Giacomo Meyerbeer. Au paradis, l'air le plus célèbre de l'Africaine de Giacomo Meyerbeer, création en 1865, un opéra très important historiquement. C'est pour ça qu'on était particulièrement content, Richard en tout cas, de le voir à l'Opéra de Marseille pour 4 représentations. Direction Nader Abbassi, mise en scène Charles Roubaud, une jolie distribution dans les rôles principaux Karine Dey et Florian Laconi. Pourquoi c'est important de parler de l'Africaine, Richard, et pourquoi vous étiez en particulier ravi d'aller le voir ou revoir à Marseille?
Vous savez, c'est quand même un opéra, je pense, j'ai pas vérifié, ça se donne pas au moins une fois par an. Mmh. Ça n'a pas la fortune des Huguenots, qui curieusement étaient tombés dans l'oubli en même temps que l'Afrique. Autre grand opéra de Meyerbeer. Et donc après, ça se jouait de temps en temps en région, il n'y avait plus d'existence, quoi. Mmh. Donc moi, c'est un opéra qui m'a toujours fasciné grâce au disque Placido Domingo. Oui. Il y a quand même un DVD et un CD avec lui et Shirley Verrett. Donc moi, j'ai découvert l'Africaine avec ça. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour le voir sur scène. Ces 15 dernières années, j'ai vu Strasbourg, Venise et Marseille. Les 3 fois, j'étais content d'aller voir l'Africaine. Oui. Les 3 fois, je me suis heurté à un problème majeur. C'est le dernier opéra de Meyerbeer. Il est très différent des précédents. Il essaie plein de choses. Mmh. Il y a des trucs qui ressemblent vraiment aux Huguenots, même très flonflon, très plan-plan, et d'autres totalement innovants, où il échappe à la structure en morceaux séparés. Mmh. Il y a de longs passages en récitatif chanté. C'est un opéra, en fait, passionnant. Le problème, c'est qu'il faut le jouer en entier. Mmh. Parce que si vous commencez à le couper, l'ouvrage perd de sa cohérence et du coup, on commence à s'ennuyer.
Vous voulez dire le côté continuité qui mène à Wagner, c'est ça ?
Voilà, ce côté discours continu qui est beaucoup plus prégnant dans l'Africaine que dans Le Prophète, les Huguenots, Robert le Diable, doit être respecté. Et là, à Marseille, c'était des coupures dans tous les coins.
Et pourquoi on a coupé ? Parce que c'est trop long ?
Alors, je pense qu'on estime que c'est trop long.
Pardon, Pierre Flinois.
Même à la création, on avait jugé que c'était trop long, ça avait dépassé minuit. Mais c'est pas si long que ça par rapport à la taille des opéras de Wagner, etc. Le problème, c'est qu'on considère, alors là, il manque une bonne heure de musique au minimum. J'avais lu un papier de l'époque de la création où on écrivait « Quand on coupe, il faut recoudre ». Et là, j'ai l'impression qu'on a perdu le fil et l'aiguille.
D'accord.
Et moi qui ne suis pas du tout un connaisseur comme Richard de cette œuvre, c'était ma première
en scène. Première africaine.
Je ne connaissais aussi que Verrett Domingo en vidéo, en audio, etc. Mais je voulais tester la chose. Bon. L'œuvre n'est pas aussi extraordinaire.
Ah, dites pas ça à Richard. Hein.
Ah, je lui ai déjà dit. Il y a quand même chez Meyerbeer un certain sens de... Je passe les 2 premiers actes à enfiler la musique comme ça, et après ça va devenir intéressant. Il a mis quand même 25 ans à sortir l'opéra, je veux dire, ça a été quand même une grosse difficulté. L'action et la musique doivent pouvoir quand même tenir ensemble. Le vrai problème, c'est que quand on crée ça en 1865, eh bien, il y a un certain Richard Wagner que vous évoquiez, mon cher Lionel, il y a un instant, qui lui en est déjà à Tristan.
Ça souffre la comparaison.
Je rends à Richard la défense.
Bon, on n'a pas vraiment parlé en fait de cette production. Alors déjà, on a coupé, mais enfin, je veux dire côté mise en scène. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça amène? Est-ce que c'est mise en scène d'ailleurs? J'ai pas bien compris.
Pour moi, ça tient plus de la mise en espace. Et d'ailleurs, j'aurais moi annoncé dans le programme de salle, mise en espace plutôt que mise en scène. Mmh. C'est un décor totalement spartiate au premier acte. C'est des murs au fond de marbre veiné de gris. C'est transposé vaguement dans les années 30.
Il y a quand même
30.
Des costumes, c'est ça ?
Voilà. Ouais. Il y a un grand parallélépipède qui descend, creux en son milieu, qui descend des cintres, qui s'abaisse, qui se relève. Voilà. Mais il n'y a aucune direction d'acteur. C'est vraiment un concert en costume avec quelques projections.
Ouais. C'est de la mise en image, effectivement. Maintenant, ce ne sont pas les images les plus extraordinaires que j'ai vues sur une scène d'opéra. Et je disais un instant que les costumes m'avaient pas ravi. Je suis désolé. Quand on habille l'héroïne comme on l'a habillée avec une espèce de main de chasuble rose fuchsia, etc., ça ne lui va pas du tout à la pauvre Karine Day. Et dans les chœurs, il y a des saris, on verra ça à la fin, qui sont plus beaux que ce qu'on lui fait porter. Alors là, qui sont plus simples, simplement. Et là, on a voulu faire du costume d'opéra. Le problème de cette production, c'est que c'est une espèce d'opéra de papa. Et qu'est-ce qu'on attend dans un opéra comme l'Africaine? On attend du spectacle. Mmh. On attend le naufrage, complètement raté, hein, soyons très clairs. On attend quand même de l'exotisme. Et puis, bon, on s'est retrouvés en sortant tous les deux après le cinquième acte. Et on a eu la même réaction. La scène sous le encénillier qui n'a jamais existé à Madagascar, semble-t-il. Bon, ça, c'est les incohérences de ce qu'on acceptait au 19e. Eh bien, ça se passe sur une espèce de cube surélevé et la mer devant. Et j'ai pensé immédiatement à la mort de Didon. Et il a pensé exactement la même chose que moi. C'est pas exotique du tout. Donc, le côté grand spectacle, eh bien, il n'y est pas. Or, c'est la nécessité même, la justification de ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à l'opéra de Marseille, qui n'a pas les moyens, évidemment, d'un opéra de Paris, a fortiori d'un opéra américain, de monter un opéra comme ça?
C'est que l'opéra de Marseille a l'habitude de faire les opéras en version de concert, vous le savez. Ouais. Pourquoi, plutôt que faire ça, ne pas l'avoir fait en version de concert avec la distribution? On aurait peut-être échappé aux coupes. En général, les versions de concert, on ne sait pas pourquoi, les chefs d'orchestre sont plus enclins à laisser respirer la musique et coupent moins.
Parce qu'ils n'ont pas de metteur en scène qui leur dit coupe-moi ça,
parce
que j'ai rien à faire
avec. Exactement,
sans
doute, effectivement. Et je pense que ça aurait été mieux en version de concert par rapport à ce qu'on a vu.
Bon, si je comprends bien, ce n'est pas une Africaine qui vous a vraiment transporté, en tout cas pour la scène. On va essayer de voir ce que nous ont dit les voix de cette soirée. Tiens, Karine Day, qu'on ne va pas entendre dans l'œuvre de Meyerbeer, qu'elle n'a pas enregistré, mais dans du Rossini. Karine Day, qu'on entendait ici dans un petit extrait de Sémiramis de Rossini. Karine Day, qui a donc le rôle principal dans cette Africaine de Giacomo Meyerbeer à Marseille, enfin, qui avait, puisque les représentations sont achevées maintenant, Célica. Notre Karine, on se dit qu'elle doit exceller dans ce genre de rôle, Richard.
Elle excelle. À la base, Meyerbeer voulait écrire l'Africaine pour Cornélie Falcon, 25 ans plus tôt. Bon, en 1864, quand il a fini l'Africaine, Cornélie Falcon, elle était à la retraite. Donc, mais il a pensé pour elle, et les rôles de Cornélie Falcon, on le sait depuis Valentine de Huguenot, par exemple, c'est les rôles qui conviennent pour moi le mieux à Karine Day aujourd'hui, avec certains emplois du bel canto de Bellini, Rossini, Donizetti. Elle est extraordinaire là-dedans, elle a l'aigu, le grave, la facilité, la sensibilité, le sens des nuances. Elle était excellente en Célica. Simplement, elle avait deux handicaps, les coupures qui défigure son rôle. Comment voulez-vous incarner un personnage quand, quand on vous enlève des bouts où justement Celica, elle révèle des aspects de sa personnalité qu'elle n'avait pas révélé jusque-là. On vous l'enlève. Donc c'est une espèce d'extrait de l'africaine avec Karine Dehé, magnifique. Je dirais...
Mais deuxième chose, le costume, si j'ai bien compris, c'est
ça. Et alors, il y a le costume, entre les coupures et le costume. Bon, c'est vrai que le pyjama orangé du début est vraiment pas saillant. La robe canari va mieux quand elle est... Ouais. Mais là où Pierre a parfaitement raison, c'est que les choristes sont mieux habillés. Les choristes, ils sont habillés comme au début des Pêcheurs de Perles.
Mmh. Vous avez aimé Karine Dehé aussi, Pierre?
Ah, j'ai adoré. Je l'aime bien
en général.
D'habitude, je dirais. Mais là, elle se battait quand même contre le fait qu'il fallait réparer les coupures quelque part. Ça se sentait. Mais elle était à l'aise, malgré tout. Elle était à l'aise parce qu'elle est dans son univers vocal, dans son élément vocal, et qu'elle domine la chose. Et c'était quand même l'étoile de la soirée, incontestablement. Mmh. Et il y a ce côté sympathique chez elle, en plus, qui rayonne. Oui. Et c'est la seule chose qui rayonnait de toute la soirée, dans ce désert un petit peu visuel. Et pas d'accord.
Il fait non, Richard.
Non, moi je suis pas d'accord, parce que j'ai adoré ce que faisait Karine. Mais j'ai trouvé aussi bien, franchement, Jérôme Boutillier en Nélusco.
Tout à fait d'accord.
Pour moi, il rayonnait autant que Karine. Et en plus, Nélusco, dans le travail qu'a fait Roberto Rizzi-Brignoli et les coups de ciseaux qu'il a donnés, est sans doute des personnages principaux, celui qui survit le mieux aux coupures. Mmh. Et on comprend à peu près ce qu'est le personnage. Du coup, il en profite pour vraiment incarner un personnage. Il chante magnifiquement. Il est fait, Jérôme Boutillier, pour les rôles créés par Jean-Baptiste Faure. Verdi avait écrit Don Carlos pour Faure. Meyerbeer avait écrit l'Africaine expressément pour Jean-Baptiste Faure. C'est typiquement les rôles qui vont à Jérôme Boutillier. J'ai eu l'impression d'avoir une adéquation parfaite entre un chanteur et une écriture vocale.
Bon, vous sauvez, entre guillemets, encore un autre chanteur, Pierre, dans cette production de l'Africaine. Enfin, retenez, pas sauvez, pardon. Je ne sais pas, Florian Laconi, par exemple, oui, en Vasco.
Il tient le rôle, quand même. Le chant n'est pas toujours d'une perfection absolue. Il a quand même... Bon, c'est un clairon. Soyons très clairs, quand il n'est pas en mode clairon, c'est un petit peu plus, qu'est-ce que je veux dire, fragile, c'est tout. On parlait de rayonnement tout à l'heure à propos de Karine. J'aurais pas utilisé pour Jérôme Boutillier le même terme, c'est ça, mais il était aussi le premier côté masculin de la soirée, ça c'est incontestable. Donc, devant ça, on se dit, qu'est-ce que je suis heureux. Et puis, sur les autres, bon, l'important, c'était une distribution française. Aujourd'hui, il y a des chanteurs, pour le faire français. Oui, il y avait une belle brochette de chanteurs, pas vraiment mis en valeur, ni par la mise en scène qui les laissait totalement à plat, ni par le fait je l'ai charcuté un peu. C'est pas si mal que ça, quand même.
Bon, j'ai bien compris.
Mais ça, c'est l'immense mérite de l'Opéra de Marseille. Quoi. Grâce à Maurice Ibéras, son directeur, les distributions sont toujours formidable. Vous pouvez discuter un tel, mais les distributions sont bien, sont au niveau, sont adaptées au rôle. Maurice Ibéras, c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui sait ce qu'il fait.
Une note pour cette Africaine de Marseille, enfin un nombre de casques. Pierre?
2.
Ah oui, quand même.
3.
Hein. 3, Richard. Bon, on fera entre 2 et 3, peut-être un 2,5, si ça arrive à rentrer. Allez, une dernière fois, on va écouter ici Karine Dehé, et c'est toujours du Rossini, cette fois dans La Dame du Lac. Karine Dehé, qu'on entendait ici chanter Rossini. Merci à Pierre Flinois, Richard Marté, Maud Nourry, Olivier Guérin et Dofar Guéride. De nouveaux épisodes du Casque et l'Enclume, c'est bien sûr sur le site de France Musique. Ils vous attendent.
À réécouter sur francemusique.fr.